France Culture.
Réplique, père et fils, avec Thibaut de Montaigu et Frédéric Becbédé. Il n'y a pas de bon père, c'est la règle, écrit Sartre dans Les Mots. Qu'on n'en tienne pas grief aux hommes, mais au lien de parenté qui est pourri. Faire des enfants rien de mieux, en avoir quelle iniquité. À l'image popularisée par Freud d'Œdipe tuant son père, Sartre substitue celle des aînés qui portent sur le dos leurs enchises, et il évoque sans aménité ses géniteurs invisibles à cheval sur leur fils pour toute la vie. Depuis Sartre, le cataclysme du divorce parental est devenu un phénomène de masse. Et voici que dans le livre de Frédéric Becbédé, Un homme seul, et dans celui de Thibaut de Montaigu, Cœur, une nouvelle figure apparaît. Celle du père, non pas écrasant, mais évanescent. Frédéric Becbédé et Thibaut de Montaigu ont accompagné la lente agonie de leur père et affectueusement mais sans concession, ils font revivre chacun le sien, explorant ainsi un lien paradoxal. Commençons par les présentations. Qui était Jean-Michel Becbédé? Frédéric.
Je viens de passer un an et demi à tenter de répondre à cette question et je n'y suis pas complètement parvenu. Il y a beaucoup de secrets, de mystères et de non-dits chez lui. Je peux vous répondre que c'est un homme qui est né en 1938 à Pau, qui a donc traversé la Deuxième Guerre mondiale dans sa petite enfance. Ensuite a été mis dans un pensionnat très strict pendant des années et puis est devenu ensuite, en faisant Harvard Business School aux États-Unis, un des inventeurs du métier de chasseur de tête en France. Donc un grand homme d'affaires français et également américain. Après sa mort, j'ai aussi découvert qu'il avait une autre identité américaine, William Harbin Carthew, qui était sur ses trois passeports que j'ai découvert. Et donc, il avait peut-être d'autres activités clandestines.
Ah, vous imaginez qu'il a peut-être travaillé pour la CIA? Ben, vous n'en êtes pas sûr, est-ce un...
Il y a des indices.
Il y a des indices quand même.
D'abord, le métier de chasseur de tête a été inventé aux États-Unis par des gens très proches des services secrets américains et du gouvernement. C'était un moyen de recruter partout dans le monde des patrons pour les marques américaines, donc d'exporter l'économie du pays. Et puis, ces passeports, je les ai montrés à des agents secrets français et américains qui, semble-t-il, confirment que ce sont des vrais passeports sous une fausse identité, mais donc des services. Mmh. Je pense qu'on va parler de ça parce que Thibaut de Montaigu, dans Cœur, émet aussi l'hypothèse que son père était peut-être lié à des activités d'espionnage. Et juste, je voudrais dire, c'était très banal. Il faut bien se rendre compte que dans les années 50, c'était la guerre froide, il y avait des espions partout, il y avait du KGB et de la CIA partout dans les pays occidentaux et dans les pays de l'Est aussi. Donc c'était un affrontement entre espions, officiers traitants, agents de renseignement. C'est pas forcément James Bond, mon père, parce qu'il avait pas le droit de tuer. Mais il pouvait tout à fait renseigner les Américains sur l'industrie française, par exemple.
Mais vous allez assez loin dans l'analogie, Frédéric Becbédé, avec James Bond. James Bond, figure masculiniste, et votre père, à certains égards, lui ressemblait. C'était un homme à femme, et c'était, je l'ai dit en commençant, un père fuyant. Vous lancez à sa recherche, parce que d'une certaine manière, vous ne l'avez pas beaucoup côtoyé de son vivant.
Frédéric. Oui, vous avez tout à fait raison de commencer votre présentation par l'importance du divorce pour ma génération. Le divorce s'est généralisé dans les années 60 et 70 et tous les enfants de ces années-là sont principalement des enfants de pères absents. C'est joli de dire évanescent, mais pour moi c'était plutôt absent, c'est-à-dire que je le voyais très peu. Donc les moments où je le voyais étaient des moments très concentrés, dans lesquels je prenais des notes sur des cahiers absolument pour éterniser ces instants fugaces. Et James Bond, oui, est très important. Je me suis beaucoup amusé à comparer mon père à James Bond parce qu'il y avait des points communs nombreux. Par exemple, il avait la même voiture, une Aston Martin DB6. Il avait la même montre. Il avait le goût des jolies femmes, des voyages dans les mêmes pays. L'Asie du Sud-Est, l'Amérique latine. Les endroits où, justement, l'Amérique se battait contre les communistes. J'essaie d'analyser ce que James Bond nous a légué, puisque c'était le modèle de ces hommes-là. Et donc, qu'est-ce qu'on garde et qu'est-ce qu'on jette de ce cher James, que par ailleurs, moi, en tant qu'enfant, j'admirais autant que mon père.
Oui, mais on vous accuse d'être vous-même un hétérosexuel masculiniste, mais James Bond n'est plus votre héros. Rassurez l'auditoire.
D'abord, James Bond lui-même a beaucoup changé.
Oui, c'est vrai.
Et récemment, il a eu un enfant, une petite fille qui s'appelle Madeleine. Lui aussi évolue vers cette paternité à laquelle vous consacrez de nombreuses émissions, hein, parce que c'est un vrai sujet important. Donc, nous avons eu il y a quelques semaines la version réplique sur la sociologie des nouveaux pères. Là, c'est intéressant, je trouve, de réfléchir sur la génération précédente.
Voilà, très bien. Alors, continuons à réfléchir sur la génération, Thibaut de Montaigu, et présentez-nous votre père, Emmanuel.
Alors écoutez, c'est un personnage qui est très proche de celui que décrit Frédéric Becbédé. Celui que j'ai connu dans mon enfance, en fait, c'était aussi une sorte de Casanova, extrêmement chic et séduisant, un homme d'affaires qui voyageait de par le monde, qui montait des coups, qui était... voilà, c'était un baby-boomer, c'est quelqu'un de la même génération, il est né en 37, donc c'est à peu près la même génération. Un enfant de la petite aristocratie provinciale des Argentés, mais qui était voilà, un séducteur flamboyant, un type qui avait 15 000 aventures, qui aussi prenait ses vols internationaux. Voilà, c'est le début de l'aviation, il a commencé à travaler dans le pétrole, donc c'est vraiment un enfant.
Et c'était quoi son métier exactement? Parce que chasseur de tête, on voit à peu près. On sait aussi que le père de Becbédé n'aimait pas cette appellation. Ouais. Il n'empêche qu'il recrutait des dirigeants. Mais votre père, il faisait quoi?
Alors, il a commencé comme ingénieur.
Oui.
Il travaillait sur les plateformes pétrolière dans le golfe Persique, puis il s'est mis à son compte et il a essayé de monter des coups improbables, des combinaisons de plongées révolutionnaires, des câbles transatlantiques pour le téléphone ou je ne sais quoi, de la prospection offshore. Et donc il était à chaque fois sur des coups où il nous disait qu'il allait toucher une commission à plusieurs zéros. Et rien n'a jamais marché, quoi. Il a vécu toute sa vie un peu de la générosité de ses copains, de sa famille, de ses nombreuses amantes, à tel point qu'il a terminé complètement ruiné à la fin de sa vie. Et cet homme que je voyais absolument flamboyant, en veste, prince de Galles, très anglais aussi, très british, parlant l'anglais avec un accent extrêmement châtié, a terminé sa vie, voilà, dans un petit studio, dans un foyer logement qu'on lui louait, mon frère et moi. Il avait perdu la vue, il pouvait plus se déplacer, et continuer à se comporter comme un grand seigneur, c'est ça qui est intéressant, et a expliqué qu'il allait se refaire, alors qu'il voyait même plus les trous dans son vieux pull en cachemire, et qu'il pouvait même plus se déplacer dans le fauteuil à côté de son lit, quoi.
Oui, j'aurais pu intituler l'émission « L'insoutenable légèreté du père ». Parce que,
ah oui,
effectivement,
effectivement
c'est ce que vos pères ont en commun. Ils vous ont frustré l'un et l'autre. Vous les voyez très peu, en coup de vent.
Ouais.
Et ils ont diversé. Votre père s'est remarié, je crois, avec votre mère. Mais enfin, ils se sont quittés, malgré tout, Thibaut de Montaigu. Mais d'un autre côté, ce qui est très frappant dans votre livre, dans vos livres respectifs, c'est que vous accompagnez vos pères dans leur longue déchéance physique. Parce que c'est aussi une caractéristique de l'hypermodernité. On vit de plus en plus vieux, mais cette espérance de vie c'est aussi souvent un calvaire pour le père et pour les proches. Et vous donnez une grande place aussi, Frédéric Bellet, à cette part de la vie de votre père, comme si d'une certaine manière, ça vous avait rapproché, Frédéric Bellet.
Bien sûr, c'est presque comme une envie de contrebalancer l'absence paternelle en étant très présent à la fin. Voilà, toi tu t'es pas occupé de moi, du coup moi je vais m'occuper de toi. Et puis peut-être que c'est pas conscient. J'ai cru qu'on aurait des conversations, mais ça n'a pas été possible parce qu'on était tous les deux beaucoup trop pudiques, je pense. Mais il y a eu des très beaux moments. Je pense à un moment où mon frère et moi, on lui prend chacun une main, alors qu'il a les yeux fermés depuis des jours et des jours. Et puis à ce moment-là, en sentant que pour la première fois de sa vie, ses deux fils lui tiennent la main, il rouvre les yeux une dernière fois. Et ça ne s'invente pas, c'est un truc qu'on pourrait mettre dans un film ridicule, et pourtant c'est arrivé. C'est pas du voyeurisme, c'est pour montrer cette nouveauté qui est que les gens... mettre très longtemps à disparaître et que c'est peut-être l'occasion d'essayer de faire connaissance.
Parce qu'il a eu assez tard dans sa vie, mais quelques années avant sa mort, la maladie de Parkinson, c'est ça?
D'abord,
ensuite un cancer des voies biliaires. Oui. Tout ça, vous le communiquez au lecteur. C'est quand même quelque chose qui a énormément compté, malgré tout, dans la relation que vous avez établie avec cet homme.
Oui, alors après, j'essaie d'éviter le côté témoignage exhibitionniste qui est la tendance de la littérature contemporaine, mais de se servir de ces instants pour en saisir l'émotion et transformer ce chagrin en tentative de compréhension d'un mystère. Je voudrais juste dire une chose sur Emmanuel, le père de Thibault.
Oui.
Moi, je l'ai connu.
Ah oui.
Parce que c'était un copain de mon père, en fait, Emmanuel de Montaigu et Jean-Michel Becbédé, nos personnages de nos deux romans, se connaissaient. Et ils étaient ensemble en pension, à Fribourg, à la Villa
Saint-Jean. C'est la deuxième pension, c'est ça?
Oui, la deuxième, père. En Suisse.
Oui.
Ils étaient camarades, enfin, peut-être pas camarades, mais pensionnaires dans le même endroit, sans se connaître. Mais je me souviens, moi, en tant qu'enfant, d'avoir fait du voilier
sur le
bateau de votre père. Et que nos deux pères se disputaient, ils s'engueulaient énormément puisque ces deux playboys des années 60 voulaient prendre le pouvoir sur le bateau et dire à l'autre ce qu'il fallait faire. Et donc ils se disputaient à bord de cette embarcation. C'est un souvenir que j'ai.
Oui. Et puis il y a aussi ce passage dans votre livre très... où là, l'indignation, le dispute à l'émotion, Frédéric Becbédé. Votre père bénéficie de soins palliatifs à domicile, à la toute fin de sa vie, et tout d'un coup, il y a une infirmière qui arrive et qui lui injecte une dose massive de propofol, et elle demande « Pourquoi avez-vous installé un lit médicalisé? Avec ce que je viens de lui donner, il n'en aura pas besoin. » Voilà, et elle va éradiquer ensuite un nouveau moribond superfétatoire. Et là, vous dites, les soins palliatifs sont le chronoposte du subclaquant. Bon, ça, c'est quand même,
J'ai eu l'impression que cette dame, c'était la mort.
Oui, c'était la mort.
J'ai l'impression, quand j'ai croisé cette dame, qu'elle était là pour faire dégager mon père et qu'elle avait, que son travail, c'était un petit peu d'accélérer les départs. Et il y a des lois qui vont bientôt être votées, mais elles sont déjà appliquées.
Ah, c'est ça ce que vous dites. Oui, c'est vrai. Mais enfin, si elles sont votées, peut-être que les choses se feront de manière plus claire et moins subreptice, donc moins traumatisante pour les proches. Mais Thibault de Montaigu, vous parlez aussi de ce qui est arrivé à votre père, la cécité, et puis d'autres mots. Et en même temps, cette rencontre absolument incroyable dans la maison de retraite où il se trouve, une femme, 62 ans, Nancy, figure extraordinaire de votre livre, qui tombe amoureuse de votre père, et c'est une femme belle, dites-vous, votre père ne peut pas la voir, et donc jusqu'au bout, il y aura eu cette tendresse inimaginable entre ces deux personnes.
C'est vrai que j'ai découvert à travers cette histoire une facette de mon père que j'avais jamais connue en fait. Et c'est vrai que la fin de vie, pour revenir, c'est une épreuve que chacun de nous, voilà, va enfin accompagner ses parents vers la mort. C'est quelque chose que chacun de nous, voilà, doit assumer. Mais en même temps, c'est un moment de rencontre où quelque chose transparaît qu'on n'avait peut-être pas vu chez nos parents. Vous savez, c'est la phrase d'Oscar Wilde de Début de la vie, on aime ses parents, ensuite on les juge, et à la fin, peut-être, on leur pardonne. Donc c'est cette possibilité du pardon, ou du moins de la compréhension, qui se joue à ce moment-là, dans l'agonie. Et c'est vrai que mon père, le moment de son agonie, j'ai vu quelque chose, une vérité, une sincérité que je n'ai jamais vue de son vivant, comme si justement dans ce dénuement, dans cette souffrance, sourdait quelque chose d'essentiel chez lui, et la possibilité de la tendresse avec Nancy, comme vous le disiez. C'est quand même incroyable qu'il a rencontré l'amour à plus de 84 ans, alors qu'il avait perdu la vue, qu'il pouvait plus sortir de sa chambre, qu'il avait plus un rond, et pourtant a surgi Nancy, qui a été une bénédiction pour lui, parce qu'elle l'a accompagné jusqu'à la fin. C'est très drôle, parce que Nancy l'écoutait deviser et pérorer dans le salon, dans la salle de vie où se réunissaient tous les retraités. Elle était assez fascinée par lui, elle l'a abordé en lui disant, est-ce que ça vous intéresse que je vous accompagne à la messe en mémoire de la mort de Louis XVI.
Et vous dites que c'est la plus belle phrase d'un proche que vous ayez jamais entendue.
C'est incroyable.
C'est extraordinaire.
Et mon père m'a dit, elle a eu le bon goût de me proposer Saint-Denis, qui est la messe où se réunissent voilà, les bonbons, et pas Saint-Germain-l'Auxerrois où vont les Orléans. Alors que, évidemment, c'est que de la para. Nancy n'a aucun intérêt voilà, pour Louis XVI. C'était plus voilà pour essayer de lui faire plaisir, etc.
Et ça lui a fait plaisir.
Ça lui a fait immensément plaisir. C'est dit, quelle femme de goût. Vous savez, ce sont des êtres d'apparence beaucoup qui faisaient très attention, je pense, voilà, à l'esthétique. Et moi, ce qui me frappe en fait quand j'entends Frédéric Becbédé décrire son père, finalement, ce qu'il rapproche du mien, c'est que ce sont des transgresseurs pour moi en fait. Et c'est-à-dire qu'à partir du moment où on dit souvent, vous savez, voilà, Freud divise la mère est tout amour et le père pose des interdits. Nous, nos pères, ce sont des gens qui ont brisé les interdits. Ils ont brisé le mariage. Donc on est des enfants du divorce, ça nous a vraiment constitué vraiment de manière extrêmement forte dans notre identité aujourd'hui. Ça a peut-être fait de nous des écrivains, d'ailleurs, je crois. Ils ont finalement essayé de quitter toute forme d'attachement, même à leur pays, en voyageant de par le monde, quitter toute forme d'autorité, quitter aussi, et ça je crois que c'est très important, la religion. En fait, ce sont des êtres qui n'ont pas assumé la transmission qui était celle de père en fils qui se passait à travers les générations. Je crois que c'est vraiment cette génération de la crise de la transmission, et elle se manifeste très fortement dans la religion. Nos grands-parents étaient encore très croyants ou très pratiquants, et vraiment ce moment des années 60 où les églises vont se vider de moitié, oui. Où en gros les antidépresseurs et autres pilules vont remplacer les hosties, bah c'est la génération de nos pères qui eux vont vouloir jouir sans entrave, être extrêmement individualiste. Frédéric Becbédé développe une réflexion hyper intéressante sur le solipsisme de son père dans son livre, et je crois que c'est vraiment ce qui caractérise ces pères-là, c'est-à-dire c'est la transgression par rapport à la loi des pères. Et du coup, en tant qu'enfant, c'est très intéressant aujourd'hui, on se dit, mais comment être un père par rapport à un père qui a transgressé la loi des pères ?
Alors, ils ont transgressé la loi des pères, l'un et l'autre, mais la crise de la transmission, pour votre père, d'une certaine manière, avait commencé avant, et il l'a subi, parce que ça c'est, Frédéric Becbédé, quelque chose qu'on découvre dans votre livre, les parents de votre père ont eu un comportement absolument exemplaire pendant la guerre. Ils ont caché des juifs, et en 1946, ils n'ont rien de trouvé de mieux à faire que de mettre cet enfant de 8 ans dans un pensionnat qui était un véritable bagne, oui. Un pensionnat catholique. Vous décrivez par le menu l'emploi du temps, qui a fermé ses portes en 1991, et c'était l'expérience initiale de votre père. Et finalement, vous le dites, Sorèze, il ne s'en est jamais remis. Et c'était quand même une trahison parentale d'une violence inouïe.
Alors, c'est le regard qu'on a aujourd'hui, parce que nous nous occupons de nos enfants. On a un regard aujourd'hui sur cette génération de nos grands-parents qui exilaient leurs enfants dans des internats. On est horrifié, mais en même temps, c'était la norme. Dans le milieu, dans ce milieu bourgeois favorisé, tous les enfants allaient dans des pensionnats et ne voyaient leurs parents que à Noël et pour les grandes vacances. Donc c'était, oui, c'était des endroits sinistres, très austère, très sévère, avec
sévère jusqu'au sadisme quand même.
Oui, avec des châtiments corporels.
Châtiments corporels.
Avec un cachot, avec des cellules où on était enfermé la nuit.
Oui, mais même dans les dortoirs, il faisait un froid canard.
Très froid.
Ils tombaient malades tout le temps.
Il y avait très peu à manger aussi.
Oui, c'est ça.
Pas à leur faim, parce qu'après la guerre, de toute façon, il n'y avait pas beaucoup à manger en France. Donc,
pendant... Ils se levaient à 5h30 du matin.
5h du matin, prière, marche dans le froid, et la douche à l'eau froide. Beaucoup de punitions, peut-être des abus, on ne peut pas le savoir, mais enfin, on se doute bien que dans cet environnement-là, ça devait être monnaie courante et peut-être tolérée.
Est-ce qu'il vous en a parlé, ou est-ce que vous avez fait tout seul des recherches?
Jamais.
Sur ce pensionnat? Ils n'ont jamais dit
parlé,
un mot?
Jamais. Tout ce qu'il m'a dit une fois, il m'a dit, j'ai demandé à ma mère un jour pourquoi elle m'a mise en prison. Pourquoi,
ah quand même, il a dit ça.
Pourquoi m'avez-vous mis en prison? Il se vouvoyait. Et elle a répondu, c'était ce qu'il y avait de mieux. Donc c'est très banal là aussi. Il faut comprendre qu'en fait, il y a eu une énorme révolution avec 68 qui consiste à s'occuper de ses enfants. Et peut-être que nous trois, nous sommes les premiers hommes qui s'occupent de leurs enfants véritablement. Puisque j'ai écouté l'émission où vous disiez que vous donniez le bain et vous accompagniez à l'école vos enfants, c'est faux?
Non, non, c'est pas faux.
Et on verra quand nos enfants écriront des livres sur nous.
Oui,
ça se trouve, ça sera terrible.
Non, mais oui, parce que
ils étaient absents.
Mais probablement, nous sommes étouffants. Des parents
alors
étouffants.
Alors, nous en avons parlé, mais je suis différent de vous. Je suis pas un enfant de divorcé. Donc peut-être ne suis-je pas un véritable écrivain. Premier constat. Deuxième constat, j'avais plutôt des parents aimants et une mère juive, comme on dit.
Très présente.
Très présente, presque la mère abusive, la mère qui aimait trop son enfant, et j'avais envie que mon père, justement, mette un interdit, mais non pas à Oedipe, à Jocaste. C'est ça le problème, on oublie le complexe de Jocaste avec ce freudisme pour les nuls.
Ce qui me rassure, c'est que tout le monde se plaint toujours, donc c'est rassurant. Quand on a des parents présents, on se plaint également.
Ah non, je me plains pas parce que je dois beaucoup, j'avais une mère au foyer. Ça, c'est très important, une mère au foyer. C'est-à-dire qu'il m'accueillait quand je rentrais du lycée Henri IV. J'avais très peu mangé à la cantine parce que c'était pas bon. Et elle m'accueillait avec un grand sandwich au jambon. Et elle me mettait au travail. Et à 10 ans, j'ai voulu lire des illustrés. C'était pas encore des BD. Elle y a mis le holà tout de suite. Donc, je lui dois tout d'une certaine manière. Mais évidemment, ça peut être un peu pesant. Mais en tout cas, voilà. Mes parents n'auraient jamais songé à mettre
Dans un pensionnat,
leur enfant unique. D'ailleurs, vous non plus n'avez pas eu ça, Thibaut de Montaigu.
Mais mon père était en pensionnat, et ce qui me fait penser...
Ah, votre père était en pensionnat.
En pensionnat aussi, un pensionnat très proche de celui du père de Frédéric Becbédé. D'ailleurs, ils ont été dans le même, comme vous le signalez à un moment donné. Et moi, je pense qu'en fait, c'était en effet monnaie courante à l'époque. Et à l'époque, moi, je crois surtout, ce qui se passait, c'est qu'on passait directement de l'enfance à l'âge adulte. Et c'est comme ça qu'on les formait. Du coup, on les mettait dans des pensionnats. Ils sortaient du pensionnat, c'était des adultes. Ils étaient déjà fabriqués en tant qu'adultes. Et en fait, les années 60, la révolution de 68, c'est l'invention de la jeunesse. Et donc, tout d'un coup, eux, c'est très intéressant, qui ont été formés pour être des adultes directement, ont découvert cette jeunesse qui dure un peu éternellement. Ils ont voulu être jeunes toute leur vie.
Oui.
C'est les tourne-disques, l'automobile, enfin, toute cette société.
Les gadgets.
Les gadgets.
Oui.
Ils étaient fascinés des gadgets. Oui. Mon père, le fax, enfin, je raconte ça dans mon livre à un moment donné. Tous les gadgets technologiques, les États-Unis, cette fascination pour les États-Unis. Et en fait, ils ont voulu être jeunes toute leur vie, comme si on leur avait volé leur jeunesse.
Oui.
Dans ces pensionnats, finalement. Et je pense que ça les a marqués tous les deux d'une certaine manière.
Tout à fait.
Je suis visiblement un boomer très original, parce que je suis technophobe à mort. J'ai pas d'ordinateur, j'ai pas de téléphone portable. Mais c'est très bien, je vais défendre mon généralité. Je vais peut-être en faire un livre, d'ailleurs.
Ouais.
Ça me donne une idée, Becbédé.
Je voudrais juste ajouter quelque chose sur nos deux livres. J'ai beaucoup aimé Cœur de Thibaut de Montaigu. Et il y a un point commun, c'est qu'on termine tous les deux sur un discours. C'est-à-dire que Thibault raconte un texte qu'il a lu à la radio à son père. Et la différence, c'est qu'il était toujours vivant et il a pu l'entendre. Et moi, je termine sur le discours à l'enterrement de mon père. Ouais. Et c'est comme si on avait voulu, dans cet épilogue, faire le bilan de cette relation étrange père-fils dans une époque où les pères n'étaient pas vraiment des adultes et où les fils ont dû se débrouiller pour la première fois dans l'histoire de l'humanité avec des modèles.
Alors justement,
vous
leur faites ce discours, vous écrivez ces livres pour leur assurer une sorte de survie littéraire. Alors ce faisant, est-ce que vous acquittez une dette à leur égard ou est-ce que vous leur accordez votre pardon?
Alors moi, c'est très particulier parce que ce livre, j'ai commencé à l'écrire à la demande de mon père qui, alors qu'il était déjà voilà en fin de vie, m'a demandé d'enquêter sur mon arrière-grand-père, Louis de Montaigu, qui était capitaine au Hussards et qui est mort dans la dernière charge de cavalerie de l'histoire de France au premier jour de 14. Et moi, j'avais aucune envie d'écrire sur cette histoire au début, mais je me suis rendu compte que plus on parlait de cette charge ensemble, plus je lui parlais de mes recherches, plus il reprenait vie, je redonnais des couleurs. Comme si finalement il souffrait du cœur, il souffrait d'insuffisance cardiaque, je savais qu'il allait en mourir. Et c'est un peu tout d'un coup comme si mon livre était lié à son cœur, et tant que j'écrirais ce livre, son cœur continuerait à battre. Donc j'étais un peu comme Scheherazade, si vous voulez, la narratrice des Mille et Une Nuits, qui chaque nuit va inventer un nouveau conte roi pour retarder l'échéance de sa mort qui est prévue à l'aube. Et donc la littérature, pour moi, c'était une manière de conjurer littéralement la mort, parce que je me disais, tant qu'on ferait cette enquête ensemble, il restera en vie. Mais si la littérature a le pouvoir de conjurer la mort, c'est évidemment de manière symbolique, c'est que finalement, on leur a donné une part d'éternité en les enfermant dans ces œuvres de papier. Et donc, ce livre-là, finalement, c'était rendre, d'une certaine manière, mon père éternel, et le rencontrer même, parce qu'il est mort au cours de l'écriture. Et finalement, j'ai vécu encore un an et demi d'écriture où je l'ai jamais senti aussi proche, c'est très étrange alors qu'il était décédé, de moi qu'au moment de l'écriture, comme si dans la littérature, j'arrivais enfin à son essence, à sa vérité, et j'enlevais tous les masques qu'il avait portés au cours de sa vie, et j'arrivais enfin à sa vérité.
Sa vérité, mais alors justement, cette vérité, vous le dites dans un entretien, vous dites, Thibault de Montaigu, que votre père, comme cet arrière-grand-père, qui se prénommait Louis, était travaillé par la conviction du passé glorieux de sa famille. Et ce passé glorieux, Louis est allé justement jusqu'au bout de sa quête, puisqu'en effet, il est mort avec un panache extraordinaire, dans cette espèce de cavalcade effrénée, alors même qu'on entrait dans la guerre industrielle, dans la guerre de matériel.
Oui.
Et cette fascination de l'héroïsme, du panache, est-ce que elle vous travaille aussi? Parce que finalement, vous parlez dans votre livre de psychogénéalogie, il existe un lien avec les morts, et êtes-vous obsédé aussi par l'héroïsme, Thibault de Montaigu?
Alors c'est vrai que toute ma famille a été sans doute obsédée par l'idée de redorer son blason, parce que voilà, les Montaigu avaient fait faillite, c'était cette petite aristocratie provinciale désargentée, et donc chaque génération a couru derrière cette gloire illusoire, cet honneur, cette fortune, exactement comme mon père. Donc Louis, il faut imaginer, cette charge de cavalerie, c'est quelque chose de complètement insensé, parce qu'on est au premier jour de la guerre de 14. Voilà. La cavalerie ne combat plus depuis la guerre de 70, la première guerre contre les Allemands, parce qu'évidemment, contre des mitraillettes et des canons, ils n'ont aucune chance. Et pourtant, lui va partir à la tête de ses 200 hussards, sabre au clair, au triple galop, contre une batterie allemande pour sauver un bataillon d'infanterie. Donc, il savait qu'il allait à la mort. Il n'avait aucune chance de s'en sortir. Donc, c'est un geste très fort, mais c'est peut-être un des derniers gestes héroïque de l'histoire de France. Toute l'histoire de France, évidemment, s'est construite sur des vies héroïques, Jeanne d'Arc, Bayard, etc. Mais je crois que la guerre de 14 marque vraiment un tournant, parce qu'après la guerre de 14, avec cette immense boucherie, 1,5 million de morts en France, on ne va plus accepter ces morts héroïques. Je crois qu'il y a quelque chose qui va se passer à ce moment-là qui va être très fort. Et d'ailleurs, mon père va être le premier de cette lignée, qui ne sera plus aux archives militaires de Vincennes, qui ne sera plus un héros. Donc il va se comporter comme un chevalier sans guerre. Et moi aussi, d'une certaine manière, je suis un chevalier sans guerre aujourd'hui. Je participe de cette lignée, mais il faut réinventer l'héroïsme et réinventer la chevalerie.
Oui, mais il faut le réinventer. Il est revenu l'héroïsme quand même. Il est revenu pendant la guerre avec la résistance. Et les boomers, là j'en témoigne, je ne sais pas si c'est encore vrai pour vous, Bec Bédé, parce que vous êtes presque un boomer. Enfin, vous êtes plus jeune que ça, mais vous n'êtes pas tellement loin.
Né dans les années 60, oui, un peu plus tard.
Vous êtes né en quelle année ?
65.
65, oui. Non, c'est boomer, ça s'arrête en 55-60. Donc, vous n'êtes pas un boomer.
Ne me vieillissez pas, s'il vous plaît.
Non, c'est vrai. Je reste le plus vieux, et j'y tiens. Et donc, on se dit ça, mais comment aurions-nous fait ?
Bien sûr.
Aurions-nous su résister ? Et Régis Debray l'exprime magnifiquement. J'appartiens à une génération de série B, condamnée par un blanc de l'histoire au pastiche des destins hors série qui nous ont précédés, raflant les premiers choix et nous laissant les doublures. Sous Blum, sous De Gaulle, sous Malraux, sous Bernanos, sous Camus, sous n'importe quoi. Ma génération plaque des accords comme un ours sur la partition des aînés. Nous gérons maladroitement un portefeuille de classiques inaccessibles. C'est dans Louer soit nos seigneurs, une éducation politique. Et il est vrai qu'on est, on était tous un peu comme ça. Et c'est là, de quel héroïsme serions-nous capables?
C'est très beau parce que, au fond, chaque génération jalouse la précédente et admire la précédente et en même temps doit s'en débarrasser, doit s'en libérer. C'est vraiment le sujet, en tout cas, d'un homme seul, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on jette de cette génération. Et oui, l'héroïsme de mes grands-parents
est
évident. Ils ont pris des risques immenses en cachant deux familles juives pendant 4 ans dans leur maison. Ils ont aidé la résistance, hébergé des résistants, aidé des gens à traverser les Pyrénées vers l'Espagne. Tout ça au péril de leur vie. Et en même temps, ils ont complètement négligé leurs propres enfants. Et donc il y a des... Voilà.
Oui, mais vous dites...
Ça m'intéresse aussi l'arrière-grand-père de Thibault, parce que du côté de ma mère, il y a un Thibault de Châtaignier qui aussi est mort en Champagne dans 1915.
Vous en parlez dans un roman français.
Dans un roman français, en 1915. Alors lui, il n'était pas à cheval avec un sabre, mais enfin, il a quand même attaqué une mitrailleuse avec un bataillon en sachant que c'était absolument suicidaire, quoi. C'est peut-être ce sacrifice de la génération d'avant a fait que les grands-parents, eux, ils ont quand même été, ils se sont très bien comportés. Après, la génération d'après en avait marre aussi. Ils se sont dit, on va peut-être arrêter de se sacrifier tout le temps.
Moi, je pense qu'il y a quand même un changement au XXe siècle de la notion d'héroïsme, où finalement, après, disons, si vous voulez, les derniers grands héros qui sont peut-être les résistants, on va vers l'idée de l'héroïsme en tant qu'idée de se vaincre soi-même. C'est Hilary qui escalade l'Himalaya, c'est Saint-Exupéry, l'aventure de l'aéropostale. Et d'une certaine manière, c'est ce que je raconte à la fin de mon livre, mon père s'est montré un héros à la fin de sa vie, quand, au moment de cette agonie terrible, alors qu'il était en proie d'intenses souffrances, finalement, il ne se plaignait pas. Il montrait encore une curiosité de chaque instant. Il se faisait une fête de chaque personne qui venait, comme si... Voilà, il vivait pleinement dans le présent, et je l'ai trouvé vraiment héroïque, moi, à la fin de sa vie.
Mais vous savez, cher Thibault de Montaigu, vous avez dit qu'il ne vous avait pas transmis, mais il l'a transmis déjà quand il vous donne sa chevalière.
Mais il l'a repris.
Il l'a reprise, hein, oui.
Oui, mais symboliquement quand même, oui, quand il vous demande d'écrire... sur votre aïeul. Tout ça, c'est parce qu'il, tout d'un coup, au moment de disparaître, il s'est dit, mince, il faut absolument que je transmette quand même. Et c'est drôle parce que le mien, c'est autre chose. Il commence à me parler de William Harbin, qui est un aïeul écrivain américain. Il parle de sa famille américaine. Il citait cet homme et c'est le nom qu'il avait sur ses passeports, des faux passeports, William Harbin. Donc c'est comme si à la fin, ils avaient envie malgré tout, de dire qui ils étaient vraiment, ou de...
Ce sont des bouteilles
de se rattraper, de se rattraper,
ouais.
Voilà.
Mais quand il vous parle, de William Harbin, c'est comme une bouteille à la mer. C'est comme si il voulait vous mettre sur la piste.
Oui.
de cette identité que vous allez découvrir d'espion. Oui. Ouais, c'est très intéressant, ouais, en effet.
Alors, cette idée d'héroïsme est peut-être en effet complètement anachronique aujourd'hui, mais quelque chose se retrouve dans le père de famille. Le père que vous êtes l'un et l'autre.
Peggy.
Voilà. Comment savez-vous que j'avais parlé de Peggy ?
Non, bah Peggy, c'est père de famille, c'est héros des temps modernes.
Voilà, exactement. Le dialogue de l'histoire et de Madame Charnel.
Montaigu est un très bon élève de Finke.
Je remarque ça avec émotion. Il n'y a qu'un aventurier au monde, c'est le père de famille. Ça va à l'encontre d'opinions dominantes, même à son époque. Le père de famille, c'est la pantoufle, c'est le pantouflard. Et lui dit, les autres ne souffrent qu'eux-mêmes. Lui, il souffre d'autres. Lui seul, il a des otages. Par sa famille, par sa descendance, il est engagé dans l'avenir du monde. Engagé, pas au sens sartrien, puisque Sartre, c'est justement une catégorie militaire. Il a voulu s'engager après la résistance pour devenir trop tard un résistant. Mais là, non, il est engagé dans l'avenir du monde. Et Peggy l'oppose, il oppose un peu à vos pères. Le célibataire, le non-prisonnier, le délié, l'homme au pied léger, le bambocheur. Oui. Donc, est-ce que ce père de famille, c'est vous, Thibaut de Montaigu? Et je poserai la même question.
C'est celui que j'essaye d'être. Et en effet, Peggy était un père héroïque. Moi, je me souviens quand son enfant est malade et il fait ce pèlerinage à Chartres magnifique et la présentation de Notre-Dame de Chartres à la Beauce, c'est un poème sublissime et son fils va guérir. Oui, donc en effet, il est dans l'agapé, lui. C'est-à-dire, c'est l'amour absolu où soi-même on n'existe plus et la seule vie qui compte, c'est celle de notre progéniture, de nos enfants. Quoi. C'est le seul amour vraiment absolu qui puisse exister à notre époque où, disons que l'amour divin a vraiment régressé dans la société.
Ah, vous dites que le seul absolu, c'est l'amour pour les enfants ?
Non, à partir du moment où l'amour divin c'est-à-dire que l'amour où soi-même on n'existe plus, c'est-à-dire que dans le couple, c'est très difficile l'agapé, c'est-à-dire l'amour où finalement on s'oublie complètement pour l'autre.
Ah oui, c'est ça, c'est avec les enfants.
Ça, c'est avec les enfants, d'accord. Je trouve. Cet amour, dans toute sa pureté, on peut le trouver par moments, mais il y a quand même ce rapport d'altérité, il y a l'éros, il y a la philia, il y a d'autres sentiments d'amour qui rentrent dans l'amour, dans un couple. Tandis qu'avec les enfants, il y a vraiment ce moment où on est prêt à donner un rein, s'il faut donner un rein, on est prêt à mourir, je crois, honnêtement, enfin moi je suis prêt à mourir si je dois sauver mon enfant, enfin j'espère que je le suis.
Et pas pour votre femme. J'espère qu'elle n'écoute pas, hein. J'espère qu'elle n'écoute pas.
Si, je me rattrape tout de suite, évidemment. Mais et c'est vrai que Peggy, voilà, cette paternité héroïque qui est une paternité, voilà, moderne, je crois, et en tout cas, on essaie de tendre vers ça.
Et ouais. Vous, alors, vous êtes ce père de famille-là, Frédéric Beigbeder.
J'ai l'impression.
L'aventurier.
J'ai l'impression.
Comment on dit père moderne.
On n'est pas là pour dire, pour se vanter d'être de bon père de famille, mais ce que je fais tous les jours avec mes enfants et pour eux, mon père ne l'a pas fait pour moi, et mon grand-père ne l'a pas fait pour mon père, et par conséquent, en tout cas, dans ma famille, c'est la première fois qu'un père s'occupe de ses enfants.
Oui, c'est d'ailleurs dans votre livre que dans les Aston Martin, il n'y avait pas de siège bébé.
Non, on ne peut pas.
Mon père avait une très belle Aston Martin.
Personne n'a jamais enclenché un siège bébé à l'arrière d'une Aston Martin. Oui. Merci de citer correctement mon roman.
Je l'avais pourtant appris par cœur avant l'émission. C'est incroyable.
Mais pour revenir un peu... Pour revenir à la haute littérature, puisque nous sommes entre écrivains...
Vous deux.
Dans le père Goriot, à la fin, quand il meurt, c'est bouleversant, parce que ses filles ne viennent pas le voir. Et on a dit que nous, on était là, quand même, au moment de l'agonie. C'est aussi quelque chose qui a changé. Et Philip Roth, dans Patrimoine, c'est très intéressant comme relation. Nos livres sont pas des livres si aimables, ce sont des livres d'inventaire, de bilan, d'essayer de comprendre voilà ce qui a été quand même douloureux dans le divorce, dans l'absence paternelle, mais aussi d'essayer quand même d'avoir de la gratitude.
Et
simplement.
Oui, de la gratitude, et d'ailleurs vous citez Balzac en exergue de votre livre, le père Goriot justement, la patrie périra si les pères sont foulés aux pieds, cela est clair, la société le monde fondé sur la paternité et tout croule si les enfants n'aiment pas leur père. Tout croule si les enfants n'aiment pas leur père. Honoré de Balzac, le père Goriot. Oui. Mais vous, quand même, au bout du compte, vous réussissez à aimer vos pères.
En tout cas, c'est pas quelque chose qu'on s'est dit de oui. son vivant. On n'a pas prononcé oui. ces mots-là. Et si j'ai écrit le livre, c'est peut-être pour essayer d'arriver à l'aimer.
Ah, tisser un lien.
Parce que sinon, tout croule, je le pense sincèrement. Je pense que le but de ce livre, c'était d'obéir à Honoré de Balzac.
Et d'obéir aussi aux 10 commandements. Tu honoreras ton père et ta mère.
Oui, c'est vrai. Oui.
Et c'est très intéressant parce
mais à partir du moment où le lien est coupé par toutes sortes d'évolutions sociales, sociétales, que tout d'un coup une génération pense que le but de l'existence c'est plus de s'occuper de ses enfants mais c'est de gagner du pognon et coucher avec un maximum de jolies filles, il y avait quelque chose quand même à retisser et c'est pour ça que je dis l'importance de peut-être de nos deux livres à Montaigu et moi c'est de terminer sur ces discours à la fin qui sont véritablement là des textes je pense où on dit ce que ma génération doit dire sur ses pères et non pas sur ses papas.
Ah merci. Merci de cette précision Frédéric Bébédé, elle me va droit au cœur. Mais alors justement, vous dites dans votre livre Frédéric Bébédé, il y a autant de distance entre aujourd'hui et les années 1970 qu'entre les années 1970 et les années 1920. Comme si nous en avions fini avec l'hyper-individualisme des boomers. Or, on peut dire que notre société est très individualiste. L'individualisme, quand même, nous vivons dans une société des individus qui n'arrivent même plus à faire nation. Donc, qu'est-ce qu'on peut espérer? Est-ce qu'on peut espérer quelque chose, justement, de ce lien rétabli du père et du fils?
Je sais pas, moi. Si j'ai intitulé le livre « Un homme seul », c'est parce que, je pense qu'on est toujours dans cette idéologie-là de l'individualisme, de l'égoïsme, du narcissisme, qui est démultiplié par la technologie, le numérique, le digital et tout ça. Donc je suis aussi inquiet que vous. Et par ailleurs, souvent on dit « oui, le patriarcat est menacé ou les boomers ne sont plus au pouvoir », c'est complètement faux. Donald Trump, dans 3 jours, va être...
dites pas que c'est un boomer, là.
Donald Trump, c'est l'exemple même c'était l'idole de mon père, il l'adorait. C'est un homme d'affaires qui est devenu très très puissant, il est entouré d'hommes d'affaires, il pense qu'au sexe et au fric, et il voit le monde comme un contrat, un rapport de force. Le monde des affaires, c'est comme ça, est au pouvoir aujourd'hui. Et ce sont des gens, je suis désolé, beaucoup plus individualistes et seuls que collectivistes et généreux.
Ça, c'est sûr. Le boomer que je suis ne se reconnaît absolument pas en Donald Trump.
Non, mais ce qui a peut-être changé aujourd'hui, c'est qu'avant, vous savez, c'était le père qui reconnaissait ses enfants. Enfin, c'est la loi de la Rome antique. C'est toujours, le père qui dit « je suis le père de tel enfant ». Mais aujourd'hui, peut-être, c'est les enfants qui doivent reconnaître le père aussi. Et je crois que c'est Lacan qui disait « un homme devient un père que lorsqu'il est aimé par ses enfants ». Et je trouve que c'est ce qui est à l'œuvre dans nos deux livres avec Bécbédé, c'est que finalement, on essaye de reconnaître notre père comme notre père. On l'a peut-être pas reconnu de son vivant, mais à la fin, on a envie de le reconnaître comme notre père. Et c'est ce travail de reconnaissance qui en fait un père, finalement. Et donc, c'est là où il y a une réciprocité entre les enfants, les fils et les pères. Alors qu'avant, c'était le père, le pater familias, qui dictait sa loi, qui dictait ses interdits. Là, il y a aussi le fils qui reconnaît le père. Et c'est quelque chose qui est à l'œuvre aujourd'hui, je trouve, dans nos sociétés.
Alors, et d'un autre côté, je voudrais que nous revenions sur un concept étrange que j'ai découvert dans votre livre, Thibaut de Montaigu, la psychogénéalogie.
Ah, vous l'avez
Oui, il vous a été révélé... Oui. J'ai beaucoup de lacunes.
Non, pas du tout.
Et il vous a été révélé par une disciple de Françoise Dolto.
Tout à fait.
Et vous le liez à cette phrase de Rimbaud, « C'est faux de dire je pense, on devrait dire on me pense ». Et c'est dans une lettre à son professeur de rhétorique, Georges Isambard, pardon du jeu de mots, je est un autre.
Tout à fait.
Alors c'est donc, voilà, nous sommes habités par des fantômes.
Par des fantômes.
Thibaut de Montaigu.
Rimbaud, c'était son arrière-grand-père, en fait. Il y a une correspondance incroyable entre... Parce que l'arrière-grand-père de Rimbaud a quitté le domicile familial quand son fils avait 6 ans, exactement comme le père de Rimbaud, quand Rimbaud avait 6 ans. Et en fait, toute sa vie, Rimbaud va suivre les traces de ce déserteur qui a fui le domicile familial, qui a vécu une vie d'errance, exactement comme lui, avant de disparaître dans des conditions étranges. Et Rimbaud, au moment... Alors ça, c'est un détail qui est assez fou, mais au moment où son cercueil va être rapatrié de Marseille à Charleville, il portera comme nom le nom de Jean Rimbaud, et non pas d'Arthur Rimbaud, le nom de son arrière-grand-père, comme si toute sa vie, il avait suivi les traces de cet arrière-grand-père. Donc ça, c'est pour résumer un peu ce qu'est la psychogénéalogie, c'est l'idée que sans le savoir, de manière complètement inconsciente, on reproduit des comportements, on poursuit des destins inachevés qui ont été ceux de nos aïeux, de nos ancêtres. Et ça peut remonter à 3, 4, 5, 6 générations en arrière. C'est-à-dire que c'est pas l'influence directe de nos parents ou de nos grands-parents, c'est qu'en fait, on est influencé par des êtres qu'on n'a pas connus, mais dont les destins brisés, souvent les non-dits, les silences, les traumas, continuent de nous habiter et conditionner notre quotidien. C'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'ils sont présents en nous et qu'on reproduit des choses exactement qu'eux-mêmes on reproduit déjà.
C'est une manière de moderniser l'idée même de noblesse, Thibaut de Montaigu. La noblesse pensait ça, non ? De l'hérédité, quand même.
Tout à fait, il y a l'idée de l'hérédité.
On continue ses ancêtres.
On continue ses ancêtres.
Je maintiendrai, disait Guillaume d'Orange.
Exactement, exactement. On est obligé par ses ancêtres, qu'on le veuille ou non. Mmh. C'est vrai que donc, d'une certaine manière, ça poursuit cet idéal de noblesse, mais ça vaut pour tout le monde,
bien
finalement,
sûr.
Aujourd'hui.
Pas que pour les particules.
Voilà, pas que pour les particules. Cette petite friandise, comme disait Saint-Simon.
Oui, mais c'est beau, hein, Thibaut de Montaigu. Et puis vous avez aussi, Thibaut de Montaigu, ce passage étonnant de votre livre, votre arrière-grand-père donc est mort glorieusement,
ouais.
Ce panache anachronique que vous décrivez très bien, mais c'est son fils qui reçoit la médaille et ça se retrouve dans un livre d'histoire qui se termine par cette phrase incroyable, les fils sont là pour continuer les pères.
C'est incroyable. C'est un document que j'ai retrouvé lors de mes recherches. Et en effet, c'est une leçon de français qui se trouvait dans un manuel scolaire publié dans les années 20. Et il se trouvait dans la bibliothèque de Harvard. Donc c'était un manuel pour enseigner le français aux petits Américains. Et il y a une des leçons qui traite de la remise de la croix de guerre à mon grand-père Hubert en lieu et place de mon arrière-grand-père, Louis, qui est donc mort dans cette charge de cavalerie. Et donc, on voit ce petit garçon de 10 ans qui se retrouve au milieu de tous les rescapés des tranchées, de toutes les gueules cassées, et qui reçoit la croix de guerre des mains du commandant et qui va fondre en larmes, évidemment, parce qu'il lui dit, voilà, il faut vous montrer digne de votre père. Les fils sont là pour continuer les pères. Et il se trouve littéralement à la place de son père mort. Et ça dit beaucoup finalement de cet échange symbolique qui se passait entre père et fils. D'ailleurs, on disait tout le temps les entreprises père et fils comme ça. C'est-à-dire que il y a le don de la vie qui est fait par le père, le don du patronyme, le don de la situation sociale. Et en échange, le fils doit d'une certaine manière prolonger la vie de l'œuvre de son père.
Je dirais même plus. Tu as réalisé le rêve de ton père, puisque ton livre, c'est un ouvrage de commande. Il te demande d'enquêter sur Louis, et tu exécutes l'ordre, tu réalises son rêve. Donc c'est ça, continuer le père. Et dans mon cas, c'est exactement la même chose. En me parlant de William Harbin, il me passe une commande d'enquêter sur ma famille américaine, sur cette histoire de... sur cette généalogie, je ne sais pas si c'est de la psychogénéalogie ou pas, mais voilà, de dire non, je n'ai pas trahi mon pays, je suis un Américain, je m'appelle autrement, je suis quelqu'un d'autre que qui tu croyais, et tu vas raconter tout ça. C'est très étrange, et je pense aussi que mon père voulait être écrivain, qu'il n'a jamais osé, mais il enseignait la littérature à Harvard, il était...
Donc il était fier de vous ou jaloux de vous, Frédéric Becbédé?
Je crois au départ qu'il trouvait que j'étais peut-être pas à la hauteur de la continuation du père. Mais il me l'a jamais dit, mais des proches, des collègues de bureau m'ont dit qu'il avait lu et qu'il était fier, oui. Et c'est un peu dommage qu'il me l'ait pas dit en face.
Mais alors vous êtes là pour continuer votre père ou pour corriger votre père, notre amant, à travers le père, le papa gâteau, vous voyez, je peux pas y résister que vous êtes. Faudrait vous aider.
Oh, je ne sais pas, je pense qu'on se débrouille, on improvise avec un modèle qui est disparu, un petit peu inexistant. En même temps, moi j'ai énormément voulu lui ressembler, hein. Voilà, je veux pas m'exonérer de ma responsabilité personnelle, mais c'est vrai que j'ai voulu moi aussi être un séducteur. J'ai hérité de beaucoup
vous
de choses.
Vous avez eu une vie de patachon.
Oui, donc finalement peut-être que c'était une façon de lui rendre hommage aussi. Et le livre là, je crois qu'il est pas une hagiographie, il est parfois très très dur et en même temps c'est comme dit Philip Roth, c'est un patrimoine. Alors voilà, on hérite de quelque chose et on inventorie et on se débrouille avec ça.
Vous tireriez la même conclusion?
Oui, tout à fait. D'ailleurs, dans son livre, Frédéric Becbédé dit à un moment à peu près la même chose, enfin les mêmes sentiments que j'ai ressentis, c'est-à-dire qu'on est à la fois fasciné et agacé, quoi. C'est-à-dire qu'il y a ce sont deux personnages de roman. Voilà, ils ont eu de multiples vies, ils ont eu de multiples aventures, ils étaient absolument merveilleux, charmants. Quand j'interrogeais les gens qui ont connu mon père, ils m'en parlent encore avec des trémolos dans la voix. Et ce sont ces amants délaissés. Les types qu'il a arnaqués, ils sont encore fascinés
même
par lui.
Même les types qu'il a arnaqués.
Oui, ouais, c'est ça qui est merveilleux. Quoi.
C'est magnifique. Mais c'est très énervant même de voir à quel point ils étaient charmants avec tout le monde sauf nous.
Bon, bah, très bien. Merci pour cette conclusion. Frédéric Becbédé, je rappelle le titre de votre livre, Un homme seul, publié aux éditions Grasset, Thibaut de Montaigu, Cœur, est publié chez Albin Michel. Il a reçu le prix Interallié. Voilà, c'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut, avec la collaboration de Corinne Amard, à la réalisation François Connac, à la technique aujourd'hui Loïc Duros. La semaine prochaine, l'émission aura pour titre Victor Hugo politique. Mes invités seront Robert Kopp et Philippe Reynaud. Dans un instant, Concordance des temps de Jean-Noël Jeannonet.